j'aime l'été. Déjà le mois d'août, Jean-Sébastien est revenu, c'est comme l'automne, sauf que lui c'est une bonne nouvelle. Ah, puis j'ai du monde en studio, alors j'aime ça, je vais pouvoir faire ma cabotine comme j'aime le faire quand j'ai du monde en studio et que voilà, je fais du cabotinage. Aujourd'hui, à l'émission, vous le savez maintenant, j'ai des chroniqueurs, aujourd'hui j'en ai deux pour vous. Serge Bradet, notre historien, notre passionné qui vient nous parler d'un peintre qui a continué à peindre malgré des cataractes assez sévères. On parle de Monsieur Monet. Mm-hmm. Je vais aussi m'adresser à Martine Kessy. On va découvrir l'organisme Autisme Mauricie. Madame Kessy est la directrice générale de cet organisme-là. Et puis, il y aura une chronique littéraire aujourd'hui, mais présentée par celui que vous préférez, Gérald Cousineau. Ça va bien, Gérald, il est... Bon Dieu.
Bonjour, Clotilde.
Vous riez déjà, vous.
Oui, je ris tout le temps.
Oui, ben, alors là, dites donc, on n'a pas fini encore. Et puis, à la toute fin de l'émission, c'est un sujet plus sérieux, mais c'est un sujet aussi d'actualité. On va accueillir, du moins, je vais m'entretenir avec lui par téléphone, Pascal Rossel, qui est le maire de Waterloo. Et Annie Gaudreau, qui est une bénévole. Il s'agit du CHSLD de Waterloo qui fermerait ses portes et du coup, tous les patients qui sont là seraient envoyés à Granby. C'est quand même pas la porte à côté. Alors, il y a en ce moment une bagarre qui se mène auprès de M. Barrett, notamment pour qu'on ne ferme pas les portes de ce CHSLD. Voilà, bienvenue à Aime l'été. Et on commence par quelques nouvelles, comme chaque jour, justement, parlant de fermeture de résidence à assistance continue. Ça aussi, on parle beaucoup de fermeture. C'est pas juste pour des CHSLD. Le CISO en Outaouais compte commencer le processus de fermeture des résidences. Au plus tôt, le 25 septembre, on parle de, je pense, 4 résidences. Et cette fermeture éventuelle de ces 4 résidences à assistance continue, nous dit Patrick Woodbury, du droit continue donc aura inévitablement pour effet de délaisser une clientèle vulnérable et c'est ce que dénonce le syndicat des travailleuses et des travailleurs de la santé et des services sociaux de l'Outaouais. L'acronyme c'est STTSSSO. Je ne sais absolument pas comment l'animatrice que je suis va se débrouiller pour vous lire ça à plusieurs reprises. Bref, le CISO, appelons-le comme ça, est pointé du doigt par le syndicat qui affirme que ce que l'employeur qualifie de réorganisation se traduira au bout du compte par l'abolition d'une 50aine de postes. C'est la Fondation immobilière de l'Outaouais, propriétaire des résidences touchées, qui sera chargée d'embaucher le personnel qui y œuvrera à des conditions moindres, prétend le syndicat. Il soutient du même coup que c'est la clientèle en déficience intellectuelle et présentant des troubles envahissants du développement qui sera victime de ces compressions. Dans d'autres régions où on a procédé à de tels changements, ça a créé ce qu'on appelle le syndrome de la porte tournante. Quand les résidents partent, il y a une perte de spécialisation dans les services qui leur sont offerts. Il n'y a pas de continuité des soins malgré les plans d'action qui avaient été mis en place. Ils perdent alors leurs acquis et deviennent désorganisés, déplore le vice-président à la négociation et santé et sécurité au travail, Jérémy Berthiaume. Avant la création du CISO en avril 2015, ces résidences de petite taille où sont logées quelques personnes seulement étaient gérées par le pavillon du parc. Le syndicat dit avoir été stupéfait d'apprendre récemment que le CISO avait procédé à un appel d'offres au sujet de ces résidences sans en aviser la partie syndicale. Contrairement à ce que prévoit la convention collective, un grief a donc été déposé. En fauteuil roulant sur les chemins de Compostelle, c'est un article de Nathalie Boujard sur un site d'information français. 12 personnes paraplégiques ou tétraplégiques se sont lancées à l'assaut des lieux de pèlerinage. C'était en juillet dernier. Handicapés et valides partaient de Martel dans le Lot pour rejoindre Gavarnie, 120 km, sur un itinéraire jusqu'à présent inaccessible au fauteuil roulant. Ça a promis une aventure, ça a été toute une aventure humaine exceptionnelle, nous dit-on. Je suis allée en randonnée dans ces lieux où jamais je n'aurais pu penser aller. S'enthousiasme Thérèse Lemoine, paralysée des membres inférieurs depuis 40 ans, championne d'escrime et éducatrice sportive. Au total, ce sont 12 personnes paraplégiques ou tétraplégiques qui se sont lancées à l'assaut de ces chemins, accompagnées par une quarantaine de personnes valides. Le matin et le soir, nous avions besoin d'aide pour la toilette, mais aussi pour soigner nos blessures, comme les escarres. Et puis ensuite, sur le sentier avec nos fauteuils, c'est nous, les handicapés. Ils s'appellent familièrement entre eux les Zanzans. Eh bien, c'est nous qui emmenions le reste du groupe, dit Édouard Bren, tétraplégique et président de l'association Santiago Accessible, porteuse du projet. Les 350 km des trois étapes reliant Cahors à Lourdes se sont effectués en autocar. Des lettres qui ne l'empêchent pas de frapper des coups de circuit. Charles Brunel triomphe au baseball malgré ses diagnostics de TSA et TDAH. Ce sont les fameuses lettres en question. Il fait la fierté de ses parents. Un garçon très timide quand il était tout petit et les bruits les plus forts le faisaient pleurer, raconte la maman de 5 enfants. Il jouait aussi beaucoup avec ses petites voitures et ses tracteurs et était fasciné par les roues et par leurs mécanismes. Alors un jour, évidemment, le diagnostic est tombé, TSA et TDAH. Dans l'espoir d'amasser suffisamment de fonds pour assurer un suivi en ergothérapie à Charles en clinique privée, Carina Tremblay, sa maman, a lancé un peu plus tôt cette année une campagne de sociofinancement en ligne. Interpellée par sa démarche, les dirigeants de baseball de Repentigny ont offert à l'enfant une session gratuite. Eh bien, Charles est si doué dans son nouveau sport de prédilection qu'il s'est classé parmi les 3 meilleurs de sa catégorie lors du défi triple aux provinciaux dans la catégorie Rally Cap 4-5 ans au début du mois d'août. Alors il pourra continuer à jouer au baseball tant et aussi longtemps que ça va bien aller, ajoute sa maman qui n'a que de bons mots pour Julien Noël, le coach de son fils. Et puis enfin, on nous annonce, une fois de plus, dans francetvinfo.fr, un fauteuil roulant révolutionnaire qui changera la vie des personnes handicapées. Pendant près de 20 ans, Mario Vincentini a travaillé auprès de jeunes handicapés confrontés à leurs problèmes quotidiens. Cet Italien a eu l'idée de créer un fauteuil roulant complètement innovant afin d'améliorer leur vie et de changer le regard porté sur eux. Ce fauteuil électrique à 2 roues, à l'assise ergonomique et au design moderne, s'inspire des Segway. Vous savez, ces moyens de transport électrique qui permettent de visiter une ville en restant debout. Les avantages, un guidage sans les mains, un confort amélioré mais aussi une assise plus haute permettant à la personne handicapée d'être à la hauteur des valides et de réaliser des tâches de la vie quotidienne comme commander un café au comptoir d'un bar ou prendre un livre sur une étagère en hauteur, des tâches quasi impossibles habituellement. Mario Way, c'est le nom de cet engin, est le résultat de mon travail d'éducateur pendant près de 20 ans auprès de jeunes handicapés, tant mentaux que physiques, explique son inventeur. Ce fut une aventure extraordinaire. Pourtant, quand je les accompagnais en dehors du centre, je voyais que l'attitude des gens était pleine de préjugés. Dans le meilleur des cas, ils s'approchaient d'eux comme d'un enfant, raconte-t-il, comme si l'asymétrie physique créait une asymétrie relationnelle. Alors, dans un fauteuil traditionnel, la personne se trouve dans une posture où tous les angles sont fermés. Les organes de la partie haute du tronc sont compressés, tandis que la quasi-totalité du poids repose sur l'ischion, un os du bassin, explique-t-il. Une position qui aggrave des pathologies des personnes handicapées et qui en induit d'autres d'ailleurs sur le plan digestif, respiratoire, urinaire ou circulatoire. Mario Way fait exactement le contraire, affirme Mario Vincentini. Tous les angles sont ouverts, la partie haute du tronc est redressée avec tous les bénéfices inhérents pour la santé. La mobilité est intuitive. Mario Way étant équipé de capteurs qui lisent la position du corps. Si je bouge légèrement en avant la partie supérieure du tronc, Mario Way avance légèrement. Même chose pour bouger en arrière. Tandis que pour aller sur le côté, il suffit de bouger très légèrement le bassin à droite ou à gauche, explique Flaviano Tarducci, chargé du développement de l'entreprise. Ce dispositif favorise l'autonomie, hein, on s'en doute. Le souci, c'est que le souci, pour l'instant, ça coûte très, très cher. Il se détaille en euros, donc en Europe, en ce moment, à 19 300 euros. Autrement dit, à peu près 27 000 $ canadiens. Alors que le prix d'un fauteuil roulant électrique va de 1 500 euros à 30 000 euros pour les plus sophistiqués. Mais en ce moment, ils font tout leur possible pour atteindre un prix un peu plus démocratique. Eh bien, espérons qu'on verra un jour cet engin traverser l'Atlantique. Alors, je retrouve tout de suite l'ami Serge Bradet. Ah, Serge, vous et l'histoire, hein, c'est tout un poème.
Une histoire d'amour.
Une histoire d'amour. Ouais, mais le pire, c'est
très jeune.
On va déjà vous mettre le micro devant vous, parce que pour l'instant, l'histoire du micro, c'est moins réussi que l'histoire d'amour avec l'histoire.
On m'entend bien comme ça.
On vous entend bien. D'accord. Non, mais surtout une belle voix pareille. Oui, il faut quand même que... Oh là là. Alors aujourd'hui...
Claude Monet.
Ah, mm-hmm. Le peintre.
Le peintre, ce grand peintre impressionniste qui a été atteint de cataracte vers l'âge de 60-quelques années et qui a continué à peindre. Et il a été opéré des cataractes. L'opération a réussi, mais plus ou moins. Et donc, il a continué quand même à peindre ce qu'il voyait à ce moment-là avec son handicap.
Alors, c'est ça, ça l'impressionnisme.
Oui.
Oubliez ça.
Pas tout l'impressionnisme.
Non, oubliez ça. Non, je ne l'ai pas dit. Je n'ai pas dit ça.
Alors, Monet, ce n'est qu'un œil, mais quel œil, a dit le peintre Cézanne. Oui, mais un œil malade qui faillit rendre le peintre aveugle à l'époque où il préparait la série des Nymphéas, mythique chef-d'œuvre de l'impressionnisme qu'il avait offert à la France en 1918 pour fêter la victoire française à la fin de la Première Guerre mondiale. Une passionnante exposition qui a été présentée en 2009 au musée Marmontant-Monet à Paris a montré avec l'aide d'éminents ophtalmologistes comment Monet, qui a vécu de 1840 à 1926, a gagné la bataille contre la cataracte, un terrible handicap visuel plus ou moins invalidant qui l'a contraint à modifier sa palette pour fixer sur la toile des instants précis dans ses conditions de vision. L'exposition, au carrefour de l'histoire de l'art et des connaissances scientifiques les plus avancées sur l'œil et la vision, a présenté une soixantaine d'œuvres puisées dans les collections du musée, dont l'Institut de France est légataire, ou prêtées par d'autres institutions ou collections françaises et étrangères pour faire appréhender plus précisément ce qui résume le mieux l'œuvre et l'originalité d'un peintre, son regard. Avant l'opération, Monet ne percevait déjà plus les couleurs avec la même intensité. « Les rouges m'apparaissent boueux », disait-il. Et puis c'est vraiment l'impression quand on voit ces toiles qu'il a peintes à cette époque. Et il avait du mal à reconnaître les teintes de la peinture elle-même. Il a raconté qu'il avait commencé à ranger méticuleusement ses tubes de couleurs, se fiant uniquement aux étiquettes et à l'ordre invariable qu'il avait adopté pour étaler sur la palette les matières. Et il ne percevait plus les bleus aussi. Après l'opération, il se plaignait au contraire de voir un monde trop jaune, trop bleu. Ses lunettes teintées d'opérer lui ont été prescrites de manière à remédier à ses défauts. Dû au fait, explique le docteur Anthony qui le soignait, que la rétine d'un œil opéré de cataracte reçoit beaucoup plus de lumière que la rétine d'un œil normal, en raison de l'ablation du cristallin qui constituait un filtre. Les verres teintés sont conçus pour imiter la couleur du cristallin normal.
Mais vous savez que c'est encore vrai maintenant, ça.
Oui.
J'ai une amie qui vient de se faire opérer, et jeune. Et elle m'a dit, je ne me rendais plus compte depuis tellement longtemps de ce qu'était le bleu du ciel bleu. Elle a retrouvé tous les bleus, justement, et elle m'a exactement cité ces deux teintes-là, les bleus et les jaunes.
Oui, c'est ça.
On parle de couleurs devant vous, Gérald. Vous avez un souvenir des couleurs.
Oui, bien sûr.
Très clair, hein, parce que vous, Gérald, vous avez vu dans le temps, donc c'est quelque chose qui...
Il y a quelques années, je voyais encore le ciel bleu.
Voilà. Plus maintenant du tout.
Non, mais il est dans ma tête.
Il est dans votre tête. Parce que c'est la question bête qu'on se pose parfois. Quand on parle comme ça de couleurs, est-ce que ça agace un aveugle?
Non, moi ça me fait rêver au contraire.
Ça vous fait rêver.
J'ai beaucoup aimé la peinture.
Alors,
je me rappelle les grandes toiles,
Surtout Monet, on en a vu souvent.
Vermeer,
merci beaucoup. Pardon pour ce petit aparté, c'est parce que j'ai trouvé ça sympathique.
Monet a l'habitude de peindre vraiment ce qu'il voit. Peu à peu, ses peintures ont des teintes qui s'accentuent dans les rouges et les jaunes. Les détails s'estompent également, les bleus ont tendance à disparaître. Quelques tableaux qui représentent le même motif permettent de se rendre compte des effets de la cataracte sur Monet. Par exemple, le pont japonais à Giverny.
Oui.
Très, très connu. Le bassin aux Nymphéas, réalisé l'un en 1897, l'autre en 1923. Une fois la cataracte de son meilleur œil devenue mûre, les contours deviennent de plus en plus imprécis et les détails disparaissent. Monet ne voit plus les teintes froides. Les violets et les bleus disparaissent au profit des rouges. En 1911, Monet écrit à un ami, « Il y a 3 jours, j'ai constaté avec terreur que je ne voyais plus de l'œil droit. » Mais en 1914, Monet commence à peindre des tableaux sans effet de perspective, probablement parce que son acuité visuelle binoculaire, qui donne la sensation du relief, est très diminuée. Sa perception des couleurs est également faussée. « Je ne voyais plus les couleurs avec la même intensité », écrira-t-il plus tard. « Les rouges avaient perdu leur éclat, les roses étaient insipides, et les couleurs intermédiaires et les tons froids m'échappaient. » Au cours des années qui suivent, l'œil gauche de Monet perd progressivement son acuité, et à l'été de 1922, sa vue a tellement baissé qu'il doit cesser de peindre. Il est alors presque aveugle. Toutefois, il finit par céder à la pression de son grand ami Georges Clémenceau et consent à se faire opérer d'un œil. Après 2 interventions chirurgicales en janvier 1923, et grâce au port de lunettes spéciales, Monet recouvre l'usage de l'œil droit. Le verre correcteur est teint en vert pour rectifier la vision des couleurs. Mais Monet subit diverses séquelles de l'opération. La perturbation de la vision des couleurs, la vision double et la distorsion des images visuelles. Il refuse l'opération de la cataracte de l'œil gauche.
Oui.
Monet recommence à peindre dès 1923. La maison vue du jardin de Rose témoigne de son opération. Dans cette série, Monet a tantôt peint avec son œil atteint de cataracte. Tout est en rouge, le ciel est jaune. Et tantôt avec son œil opéré, alors là tout est en bleu de couleur froide. Je vois bleu, je ne vois plus le rouge, je ne vois plus le jaune. Ça m'embête terriblement parce que je sais que ces couleurs existent, parce que je sais que sur ma palette, il y a du rouge, du jaune, il y a un vert spécial, il y a un certain violet. Je ne les vois plus comme je les voyais dans le temps et pourtant je me rappelle très bien les couleurs que ça donnait.
Et il aurait pu peindre finalement ce qu'il avait en mémoire, en souvenir.
Oui aussi, ben oui.
Non, c'est intéressant.
Malgré ce handicap, Claude Monet continue de peindre jusqu'en 1926, quelques mois avant sa mort. Et en conclusion, ben, de nos jours, on aurait sauvé la vue de Monet. Une opération de cataracte, c'est...
Ouais.
On dit en québécois un pet.
C'est vrai, mais d'un autre côté, j'ignorais que déjà en 1920, dans les années 20, on opérait aussi, entre guillemets, facilement les yeux. Je pense qu'il devait falloir être bien placé aussi.
Oui, aussi.
Genre, quand on connaît Clémenceau, ça devait aider un peu. Parce que... Non, mais dans le sens que je ne pense pas que c'était des opérations courantes.
Le
travail sur les yeux est arrivé, je pense.
Quand on pense que si Monet vivait aujourd'hui, il serait opéré de la cataracte, puis le jour même, il verrait parfaitement.
Oui.
C'est fou. Mais alors, il n'aurait jamais peint ses derniers chefs-d'œuvre de Giverny. On n'aurait pas ça.
Par contre...
Il n'aurait pas ouvert la voie à l'abstraction en peinture que caractérisent des couleurs qui se fondent les unes dans les autres, un manque de forme rationnelle et de perspective, comme la maison vue du jardin aux roses en 1922-1924.
Mais merci beaucoup parce que de vous à moi, bon, moi aussi j'aime bien la peinture, mais bon, par contre, mes connaissances sont peut-être un petit peu médiocres, mais j'ignorais complètement que les peintures auxquelles vous faites référence avaient été peintes dans une époque difficile sur le plan de la vision pour Monet, Claude Monet.
Moi j'ai découvert ça quand je suis allé à Giverny visiter avec des amis quand je suis allé en France en 85-86. Et moi aussi j'ai découvert ça. Il m'a dit, regarde Serge, les toiles, là, regarde cette toile-là, c'est parce qu'il avait des cataractes et il a peint comme il voyait
J'ai un sujet pour vous.
Oui.
Pour la prochaine fois. Oui. Justement, on parlait de chirurgie de l'œil. Un historique de la chirurgie de l'œil.
Ah, ben d'accord.
Je suis sûr que vous allez me trouver ça. Oui.
Me donne toujours des commandes comme ça.
Oui.
Puis moi, ben, je lui rends
un peu. De toute façon, payé comme il est, il dit, ça va me faire plaisir.
Oui. Ah, ben oui, OK, parfait.
Hein? Non, mais je trouve ça intéressant.
Oui, absolument.
C'est parce qu'il y a eu l'arrivée du laser, entre autres, qui a changé beaucoup de choses. Bon, voilà.
D'accord.
Comment on dépassait Serge Bradet, mesdames et messieurs, une bonne main d'applaudissement. Bravo. Merci, Serge.
Clac, clac, clac.
Est-ce que je vous sers un petit scotch avant que vous partiez ou c'est peut-être trop tôt? Non, c'est peut-être trop tôt. Tant pis. Allez, on va revenir un petit peu sur un sujet un petit peu plus sérieux et ma foi, je suis très contente de pouvoir vous présenter un organisme dont on n'a pas assez l'occasion de parler. C'est pour ça qu'on va faire connaissance avec Autisme Mauricie et Martine Kessy qui en est la directrice générale et qui doit être en ligne. Bonjour Madame Kessy.
Oui, bonjour.
Mais écoutez, je suis ravie donc de vous parler aujourd'hui. À un moment donné, j'avais vu passer une nouvelle où on parlait d'un... Voyons, est-ce que c'était un aquathon? Comment vous appelez ça?
Un aquathlon.
Un aquathlon, voilà. Oui. Et là, je me suis dit, organisé par Autisme Mauricie. Puis je me suis dit, mais je ne connais pas Autisme Mauricie. Il faut qu'on s'intéresse à ce qui se passe partout en région. Alors, c'est d'où cette idée de vous parler. C'est donc un organisme, Madame Kessy, si je ne m'abuse, qui est administrée par des parents d'enfants autistes. C'est bien ça?
En fait, à l'origine, c'est un organisme qui a été créé en 1981 par des parents pour regrouper les parents, les amis, les proches des personnes vivant avec un trouble du spectre de l'autisme. À l'époque, on parlait beaucoup de l'autisme de Kanner. Maintenant, c'est beaucoup plus élargi. Là. Nous, on donne aussi les services à la fratrie, puis aux gens qui sont en attente d'un diagnostic aussi, qui sont en suspicion.
Oui, parce que souvent, on sait qu'ils sont en suspicion longtemps. Hein. Ça peut prendre plusieurs années avant que le diagnostic soit bon. Alors, donc, l'organisme a été repris en 2013, c'est ça?
Oui. Oui, en effet. Puis nous, on a fait un sondage parmi les gens, les membres qui étaient déjà actuels, pour savoir c'était quoi qu'ils voulaient comme orientation de l'organisme. Fait qu'on est beaucoup en action.
En action. Et pourtant, vous êtes une toute petite équipe, hein, Madame Kessy.
Oui.
Mais ça travaille fort.
Ah oui, tout le temps.
Vous êtes combien?
Même en vacances.
Même en vacances. Ben oui, parce que là, je vous ai sorti de vos vacances aujourd'hui, non?
Eh oui,
J'espère, parce que de toute façon, c'est pour la bonne cause. Vous êtes 5 personnes, hein, c'est bien ça.
En fait, on a une équipe de 2 temps plein, c'est-à-dire moi puis notre intervenante en coordination. Mm-hmm. On a une adjointe administrative là, à raison d'une quinzaine d'heures semaine. Et puis, on a des intervenants voltigeurs, 2 intervenants voltigeurs qui font les samedis avec notre intervenante. Mm-hmm. Donc, on donne un ratio de 3 intervenants pour 8 enfants les samedis pour faire des activités. C'est toutes des activités qui sont faites non pas sur une forme de répit, mais beaucoup plus pour acquérir les codes sociaux. Là.
Oui,
on travaille les relations interpersonnelles, beaucoup de jeux de sensibilisation, de sensations.
Oui. Et vous desservez avec les enfants. Et vous desservez la grande région de la Mauricie, bien sûr.
Oui, en effet. C'est sûr que pour nos activités du samedi, puisqu'on a juste un local, puis c'est difficile aussi avec la subvention que l'on a de l'offrir partout, on l'offre à notre local, là, qui est centralisé à Trois-Rivières. Par contre, on offre des soirées de parents à la grandeur de notre territoire, Trois-Rivières, Saint-Tite, Shawinigan, Latuc, régulièrement, une fois par mois.
Ah oui?
Et puis, on a aussi des activités avec des adultes qu'on fait à Shawinigan et à Trois-Rivières.
D'accord. Et au cours de ces soirées, quoi, c'est pareil, c'est de l'information, ce sont des discussions, oui.
Oui, souvent, le parent a besoin de ventiler. Il y a une situation où il ne sait pas trop comment. Puis le fait, vu que notre organisme, on est basé sur l'aide et l'entraide, les parents peuvent s'entraider entre eux autres.
Là. Bon. Alors, l'aquathlon, de quoi s'agissait-il?
En fait, je dois dire tout de suite là, que je ne veux pas être imposteur dans l'histoire, c'est que c'est pas Autisme Mauricie qui l'a réalisé. Il s'agit d'une étudiante qui s'appelle Sarah-Pierre Guévin.
D'accord.
Une étudiante en adaptation scolaire de l'Université du Québec.
Mm-hmm.
En 2014, on avait mis à notre plan d'action, suite à un article qui avait paru dans la presse, que le plus haut taux de mortalité en autisme était dû par la noyade.
Oui.
Du fait que les enfants sont souvent attirés par le cours d'eau qui ruisselle, qui miroite.
Oui, par les reflets, c'est ça. Quoi.
Oui, c'est ça. Alors, à partir de là, on avait mis à notre plan d'action qu'on aimerait ça réaliser des cours de natation, mais axés beaucoup sur la sécurité. Parce que souvent, nos enfants, ils ont de la difficulté. Vous savez, une piscine, c'est très, très, très éco. Fait que être dans un groupe avec plusieurs personnes, plusieurs cris, c'est trop sur... Ils tombent facilement sur charge.
Oui, oui.
Donc, Donc, on voulait faire un cours juste pour des personnes autistes, même si on est pour l'inclusion. Et puis, suite à ça, ça a donné que Sarah Pierre nous avait contactés pour offrir des cours de natation dans le même optique. Fait que quand on dit que les astres sont bien alignés, fait que là, Sarah Pierre, elle a offert des cours de natation chez nous pendant quelques temps. Depuis 2014, elle a pu apprendre à plusieurs enfants, mais là, pour boucler la boucle, parce qu'elle a terminé ses études, elle veut aller travailler à temps plein dans ce qu'elle a étudié,
Bien sûr.
Elle quitte. Ah. Pour boucler la boucle, elle voulait créer un événement spécial, puis finalement, j'espère qu'il y aura une suite, là, mais c'est l'aquathlon. Ça a été vraiment une belle épreuve. Il y a eu 20 participants.
Oui, alors tous autistes?
Tous autistes.
Oui.
En fait, non, pas tout à fait.
Bon.
On a ouvert la porte à d'autres personnes aussi qui étaient différentes, tout simplement. Donc, on avait un groupe de trois ou cinq jeunes qui avaient un diagnostic autre, dont un sur la coordination. Alors là, c'était tellement magique de les voir courir avec leurs parents. Quand on parle d'un trouble de coordination, là, c'est pas facile. Là,
oui, c'est
faire
sûr.
De la course.
Mais non,
c'était
non.
vraiment émouvant.
Bon, alors, ils ont donc participé à des compétitions qui mariaient la course à pied et la natation, c'est bien ça?
Et la natation, oui.
Okay.
Donc, l'enfant, ce n'était pas une compétition comme telle,
non.
L'un contre l'autre,
non.
Mais plutôt contre soi-même.
Oui, bien sûr.
Le but étant le dépassement de soi.
Oui,
l'enfant choisissait s'il faisait une longueur de piscine ou deux,
oui.
Puis s'il faisait 500 mètres ou 1000 mètres pour la course.
Ah, ben c'est fantastique. Alors donc, tout le monde a gagné sa propre médaille, quoi.
Et voilà.
Hein?
C'est pas merveilleux, tout le monde a gagné.
Exactement.
Puis tout le monde avait des beaux sourires sur le podium, puis quand il passait l'arche, là, assurément, les enfants avaient un grand sourire, puis les parents avaient les yeux tout mouillés.
Ben, je comprends. Dites-moi, madame, ça se passe, ça prend une piscine? Ça, c'est que la question bête, mais,
oui.
Mais où, quelle piscine?
Ça a été fait à la piscine d'une école ici dans la région.
Oui.
Nous, on a loué finalement, là, grâce au support des commanditaires. Là,
d'accord.
Mais nos cours de natation réguliers ont lieu dans une résidence de personnes âgées.
Oui.
Oui, la résidence Le Duplessis,
oui.
Cap-la-Madeleine.
Ah, d'accord.
Eux, ils nous offrent le cours, la piscine gratuitement.
Oh, que c'est
que
gentil.
Pour l'aquathlon, il y aurait eu beaucoup trop de
non, mais je comprends.
Mais oui, à longueur de l'année, c'est grâce à eux qu'on peut avoir nos cours de natation.
Eh bien,
non, ce serait impossible.
Ben non, c'est sûr, j'imagine. Ben écoutez, ben bravo. Bravo à votre équipe. Bravo à vous, Madame Kessy.
Sarah-Pierre.
Comment vous dites? Et à Sarah Pierre, évidemment.
Sarah Pierre.
Oui, absolument. Merci infiniment. Passez une belle journée et puis longue vie à Autisme Mauricie.
Merci
au revoir.
Beaucoup. Au revoir.
Aime l'été, vous le savez, c'est l'occasion pour nous de voyager un petit peu, de visiter certaines régions, mais c'est aussi l'occasion, mais peut-être de vous donner des envies de lecture. Voilà pourquoi j'ai demandé à l'ami Gérald Cousineau, le fidèle, Gérald Cousineau, d'en être encore de ce magazine d'été, comme il le fait régulièrement pour l'émission Des livres pleins les oreilles. Comment ça va, Gérald?
Ma foi, pas mal. J'adore l'été. Alors là, il fait très beau.
Nous, on
très
aime
chaud.
L'été.
Oui, on aime l'été, oui. Beaucoup.
Mais non, mais c'est vrai. Et dites-moi, qu'est-ce que vous faites de votre été, Gérald? Vous passez pas ça chez vous tranquillement à écouter des livres?
Ben, j'en fais le moins possible. Je suis paresseux, hein, je vous l'ai déjà dit souvent. Alors, non, je blague. Je lis beaucoup, ça ne change pas. Je suis allé récemment passer 4 jours dans un chalet de Lanaudière et on a eu 4 journées superbes.
Oui, hein.
Alors, on s'est baigné dans la rivière qui n'a qu'un pied et demi de profondeur.
Oh ben, comme ça,
amusant.
On est tranquille.
Mais on a joué à la pétanque, on a bien mangé. Oh, c'était vraiment très agréable. Et là, je pars demain pour Québec où je vais passer une semaine avant de revenir à la mi-août parce que là, grosse saison, là, gros automne qui m'attend. Là.
Ah oui, hein? Ah oui, alors notamment avec peut-être des chroniques.
La radio, bien sûr, la télé, ami-télé et
ami-télé.
Le théâtre surtout, parce qu'on on commence à répéter une pièce le 25 septembre prochain. Et
redonnez-nous le nom de la compagnie de théâtre.
C'est l'Arboretum.
C'est l'Arboretum.
S'appelle l'Arboretum. Et on va commencer en septembre à répéter une pièce de Claude Bémont qui s'appelle, je vous donne le titre parce qu'il est très, très amusant, L'ahurissant vertige de M. Maelstrom.
Et vous êtes M. Maelstrom.
Et je vais être M. Maelstrom. Et oh, j'ai déjà peur. Il y a beaucoup de textes.
Il y a beaucoup de textes à apprendre. Et il faut préciser que c'est une troupe de théâtre.
Amateur, bien sûr.
Et de personnes partiellement non-voyantes ou totalement non-voyantes.
Il y a des comédiens non-voyants.
Voilà. D'accord. Bon, alors, un bouquin? Vous nous présentez quoi aujourd'hui?
Il reste du temps. Bon, aujourd'hui, je vais parler d'un livre délicieux. Je le dis tout de suite, ça s'appelle « La fiancée du facteur ». C'est d'un écrivain que je connaissais très peu, Denis Thériault. Mm-hmm. Et pourtant, j'apprends qu'il est traduit en plusieurs langues. Alors,
mon Dieu, moi aussi, vous me l'apprenez.
Ben, ce monsieur serait acteur, il est scénariste aussi, il est bien sûr écrivain. Il est né en 59, donc relativement jeune.
Oui.
Il a écrit entre autres livres « L'iguane » que j'ai lu, et un livre qui a été très récompensé. Et il a écrit aussi « Le facteur émotif ». J'en parle parce que les personnages du facteur émotif, que j'ai d'ailleurs réécouté hier, reviennent dans « La fiancée du facteur
».
Mais vous n'êtes pas obligé de lire « Le facteur », mais si vous lisez « Le facteur » également, ben vous aurez deux plaisirs au lieu d'un.
Ah, parfait.
Oui.
Parfait.
Alors donc, « La fiancée du facteur », paru en 2016, c'est pas très gros, hein? 171 pages, 4h30 d'écoute. Bon. Comment parler... Non, d'abord, c'est vrai, j'oubliais, c'est très bien lu par la lectrice Micheline Greff. Je crois que c'est son nom, une dame d'ici, parce que le livre vient du SQLA. Donc, c'est vrai, il aurait pu venir de point par point. Non, il a été lu ici, je pense.
Oui, enfin, oui, je connais bien Mme Greff.
Donc, comment résumer... Ben, disons d'abord que nous avons une jeune femme qui s'appelle Tania. Tania Schumpf, c'est dur à prononcer, c'est un nom. Elle est d'origine bavaroise. Schumpf, on peut penser aussi à Schtroumpf d'ailleurs.
Oui, bien
sûr. Quand elle était petite,
oui.
On la taquinait avec ça. Donc, elle a 23 ans. Elle est venue à Montréal pour poursuivre des études universitaires et aussi rencontrer un homme qu'elle a rencontré par Internet. Bon, ça n'a pas marché. Elle aime Montréal cependant, donc elle s'y installe. Elle va gagner sa vie en travaillant dans un petit restaurant sans prétention qui s'appelle le Madelino du quartier Saint-Janvier-des-Âmes. Ne le cherchez pas, évidemment, il est inventé. Donc, elle va travailler là, et là, elle fait la rencontre d'un facteur qui s'appelle Bilodeau. C'est un monsieur timide, introverti, un grimpeur d'escalier, comme l'auteur le dit. Et ce monsieur est féru de haïku et de calligraphie. Et les haïku, on en parle beaucoup, on en cite surtout beaucoup. Bon, rappelons que le titre que les haïku sont de petits poèmes de trois vers, comprenant 17 syllabes, et sont des poèmes qui essaient de juxtaposer l'immuable à l'éternel et qui mettent vraiment l'accent sur la nature. Basho, le japonais Basho, est un maître en la matière. Je crois que c'est 16e ou 17e siècle. Donc, ce facteur Bilodeau, très timide, va écrire des haïkus. Bon. Mais là, ça, c'est une partie de l'histoire. Il faut savoir que Bilodeau habite un appartement qui, jadis, était habité par un prof de littérature. Il n'y a pas de sous-métier, hein? Donc un prof de littérature qui s'appelait Grandpré et qui est mort par un jour d'orage écrasé par un camion. Or, ce monsieur-là écrivait depuis longtemps, depuis des années, des haïkus et les postait à une dame, à une antillaise qui s'appelle Ségolène et qui vit à la Guadeloupe. Or, notre monsieur Bilodeau, donc lui, il va vivre dans l'appartement de ce monsieur et il va littéralement en faire un sanctuaire japonais. Il va tout décorer à la japonaise. Il va même porter un kimono à l'intérieur. Enfin, une sorte de peignoir rouge vif. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Grandpré étant décédé, il va prendre sa place. Il va continuer à écrire des haïkus à la dame, Ségolène, qui, elle, ne se rend compte de rien. Mais un jour, Ségolène lui annonce qu'elle va venir faire un tour au Québec. Panique! Alors, Bilodeau, comme par hasard, par un jour d'orage, est frappé par un camion. Nous sommes avant septembre, et là, il perd une bonne partie de sa mémoire. Il devient amnésique. Alors, Tania, qui l'aime toujours, va lui faire croire qu'elle est sa fiancée. Alors, notre ami Bilodeau est à l'hôpital, il retrouve lentement sa mémoire. Alors, il veut bien, mais là, il n'y comprend plus rien. Comment fiancée? Et Pendant ce temps-là, Tania va à l'appartement de Bilodeau, le vide, apporte tout ça chez elle. Alors, quand notre ami Bilodeau va sortir de l'hôpital, qu'est-ce qu'il fait? Il va se retrouver chez Tania, croyant que c'est leur appartement.
Bien sûr.
Mais Tania a une crainte. Un jour, Bilodeau va retrouver la mémoire. Qu'est-ce qui va se passer?
Mm-hmm.
Alors, ce jour-là arrive, notre ami Bilodeau est en train de faire une tarte au citron. Il ignore que c'est son dessert préféré. Et là,
bang!
La mémoire lui revient. Alors, qu'est-ce qu'il pense? Ben, il se croit dupé par Tania. Et qu'est-ce qu'il fait? Il prend l'avion pour la Guadeloupe. Il va retrouver Ségolène. Il la voit, mais ne lui parle pas. Il constate qu'elle est mariée, qu'elle a deux petits garçons, et c'est elle qui, le voyant dans un parc, lui dit « Partez, allez-vous-en ». Il s'en va. Entre-temps, Tania, qui a découvert avec la carte de crédit de Bilodeau qu'il était parti en Guadeloupe, eh bien, elle le suit. Elle prend l'avion pour la Guadeloupe. Elle rencontre Ségolène. Elle va lui parler. Et là, Ségolène lui explique que, oui, effectivement, elle correspond avec Grand Prix depuis des années par haïku interposé et qu'elle lui a dit venir au Québec bientôt parce que ça n'allait pas très bien dans son couple. Alors là, ils partent toutes les deux à la recherche de Bilodeau parce qu'il serait toujours à la Guadeloupe. Et là, c'est Tania qui va le retrouver, ivre mort, dans un hôtel sordide, là vraiment, et étrangement, ce sera leur première nuit d'amour. Parce que jusque-là, Bilodeau était d'une froideur décourageante envers Tania, qui est une jolie femme. Donc là, première nuit d'amour. Ils vont revenir à Montréal, Bilodeau va retrouver son métier de facteur, Tania va revenir au restaurant Madino comme serveuse. J'en dirai pas plus. Parce qu'à la fin, il y a un punch qui va vous surprendre. On est dans la fantaisie,
oui,
c'est vrai, mais on est dans le romantisme. Or, dans le romantisme, contrairement à ce qu'on pourrait croire, ça ne finit pas toujours bien. J'en dirai pas plus.
Oui.
Mais c'est un livre délicieux. Les personnages sont tellement attachants qu'on regrette à la fin. Comment? C'est déjà fini?
Ah oui.
Et oui, c'est déjà fini. Donc, si vous ne connaissez pas Thériault, mais faites
un petit détour, hein?
Ça vaut la peine. Mais je ne voudrais vraiment pas dévoiler la fin. C'est vraiment charmant. C'est même coquin parce que je parlais des haïkus qui ont une très grande place dans le livre. On en cite plusieurs. Or, à la fin de sa vie, Grand Pré et Ségolène s'échangeaient des haïkus pour le moins coquins.
Ah oui?
Très sensuel.
Ah,
et
oui.
On en cite beaucoup. Et chapeau à Bilodeau qui a réussi à prendre la place du Grand Prix sans que la dame s'en doute
ben
le moindrement.
Mais oui. Ah ben écoutez, vraiment, Denis Thériault,
à connaître.
Hein. Et donc, c'est le personnage de Bilodeau qu'on rencontre dans le précédent?
Oui, d'ailleurs, dans le Facteur émotif, qui est un roman paru en 2005, vous allez retrouver le facteur Bilodeau, Tania qui est dans un restaurant, Ségolène à la Guadeloupe, mais la fin n'est pas la même.
Ah d'accord. Bon. Merci Gérald. Gérald Cousineau qui nous présentait la fiancée du facteur, Denis Thériault, un Québécois donc.
Oui, tout à fait. Et j'apprends qu'il est traduit en plusieurs langues.
Eh bien écoutez.
Et je suis très content parce que vraiment ce sont des livres qui font du bien.
Et la façon dont vous en parlez, Gérald, c'est toujours un bonheur. Je vous le dis souvent, mais hors d'onde. Alors là, voilà, je le dis en studio. Merci tellement, Gérald. C'est passionnant de vous entendre parler d'un bouquin. Un petit peu de musique, puis ensuite, on s'en va retrouver le maire de Waterloo, sa brasse là-bas autour d'un CHSLD. Merci, Gérald.
Au plaisir.
I wish I was sober before you came over. But you know that this is making me nervous. I'm drunk in a cafe, you're drinking a latte. And I haven't slept a wink waiting for this date with you. Do you feel it too? You give me a cookie, there's crumbs all up on me. Staring at me like I'm under the spotlight. The sweat is dripping down to my toes. Enjoy the view on this date with you. This night would never end. their almond and fox, and have one that talks. It feels so good to tell you my secrets. Got a few on this date with. This coffee shop, if you just hold my hand, we'll spin round the tables till we both fall down, and I just wanna dance under the lights of this coffee shop, if you just hold my hand, we'll spin round the tables till we both fall down and stop. I wish this night would never end. Oh,
ce n'est pas parce qu'on est en été qu'il n'y a pas des sujets d'actualité un peu douloureux. Je tenais à tout prix à parler de celui qui vient, de ce CHSLD, oui, un autre, qui est concerné. On parle de fermeture. Nous sommes dans la ville de Waterloo. Et j'ai au téléphone M. Pascal Russell. Je dis bien Russell, monsieur le maire?
Vous pouvez dire Russell ou Russell, mais il faut le dire avec un sourire, madame.
Alors là, moi, le sourire, il n'y a aucun problème. Alors donc, Pascal Russell et puis Annie Gaudreau, qui est bénévole et qui a un frère dans le CHSLD dont nous parlons. Monsieur le maire, monsieur Russell, madame Gaudreau, est-ce que la situation s'améliore? D'abord, je voudrais peut-être, pour les auditeurs qui ignoreraient un petit peu ce qui se passe à Waterloo, je voudrais que vous nous fassiez l'un ou l'autre un petit historique de la situation, s'il vous plaît.
Je vais débuter, puis je vais laisser le soin à ma collègue Annie de vous finaliser le tout. Alors moi, j'ai eu une rencontre avec le directeur général adjoint du CIUS de l'Estrie le 12 juin dernier, m'informant la possibilité de fermeture imminente du siège du CHSLD Horace Boivin, pavillon Waterloo, qui fait en sorte qu'il était pour envoyer les bénéficiaires dans deux sites différents. Mm. Alors, vous comprendrez que j'étais totalement à la compte de ça et j'y ai fait part de mon mécontentement et que je n'étais pas pour laisser faire cette méthode-là parce que pour nous, les petites municipalités, on se bat pour garder nos services. On est une ville de centralité et comme j'expliquais à mon monsieur, 50% des élèves qui viennent dans mes quatre écoles, parce que je suis une ville de service, mm-hmm. viennent de l'extérieur de ma ville. Alors, si j'utilise la même logique de votre part, je trouve bien de fermer mes écoles aussi.
Absolument. Absolument. Alors,
et par la suite, j'ai eu la chance de croiser Mme Gaudreau.
Oui.
Elle aide très, très fort sur le terrain à mobiliser les gens, à aller chercher du soutien. Mm. Et moi, je m'occupe plutôt de l'aspect politique, puis elle s'occupe plutôt du aspect social, communautaire pour vraiment faire un allié.
Oui, d'accord. Madame Gaudreau, c'est ça, vous avez... vous êtes montée aux barricades, hein,
oui.
comme on dit.
Oui, c'est ça, en effet.
Hein, parce qu'on parle de 43 résidents, c'est bien ça?
Oui, effectivement. Mm. Donc, on parle de des gens de différents problèmes de santé. Alors, c'est vraiment un mélange de diverses personnes qui sont évidemment pas autonomes.
Oui, oui, oui. Et qui sont souvent, on le sait, des personnes qui se sentent déjà parfois un peu isolées, pas toutes, mais ça peut arriver. Alors si en plus on rajoute quoi, il y a 40-50 kilomètres entre Waterloo et Granby où on veut les reloger?
Non, on parle d'environ 25 kilomètres de l'endroit exact.
OK, d'accord. Oui. OK, d'accord. Bon, c'est parce que ce projet-là, il s'avère que c'est un espèce de méga projet, hein, c'est ça qu'on veut faire à Granby?
Oui, on parlait initialement d'un projet de 96 lits.
Oui.
Et là, on veut le bonifier à 198 unités, qui est totalement aberrant parce qu'on sait très bien que nous, ce qu'on offre présentement, c'est un milieu de vie bucolique. Dans la nature, avec les animaux, il y a comme de la zoothérapie, il y a un jardin. Les gens ont accès à l'extérieur très fréquemment. Tandis que s'ils s'en vont dans une méga structure, c'est du béton et de l'asphalte que ces gens-là vont avoir droit. Et c'est pas ça qu'on veut donner.
Sans compter que sur le plan humain, plus il y a de monde, bien sûr, ça va peut-être démultiplier les professionnels autour, mais pas tant que ça, finalement. Donc, encore là, il risque d'y avoir un isolement médical aussi, non?
Oui, ben, ce qui est inquiétant, c'est que par le fait que ce soit, on va chercher, le CHSLD de Waterloo va chercher une clientèle quand même qui va loin. Alors, dans d'autres municipalités environnantes, donc c'est des gens qui sont habitués de vivre dans la nature, qui sont c'est des familles connues. C'est sûr qu'il y a c'est chaleureux.
Bien sûr.
Donc, je ne crois pas que nous allons pouvoir retrouver la chaleur humaine dans un grand établissement à beaucoup d'étages. Pour l'avoir vécu justement avec mon frère qui provient d'une institution qui avait 5-6 étages là, à Saint-Joseph-de-la-Providence à Laval.
Mm-hmm.
C'est aucunement rien à dire sur les soins. Ils étaient excellents. Par contre, Stéphane ne faisait jamais de sortie extérieure. Donc, il a connu la verdure en arrivant ici à Waterloo en 2013.
Donc, vous êtes alors complètement capable de pouvoir en parler, hein, de dire voilà ce qui arrive.
Ah oui, on a vu les chamboulements. On a vu l'adaptation qui a duré près de 6 mois et qui a sorti un comportement chez mon frère que nous ne connaissions pas.
Bien sûr.
Alors, c'est ça.
Dites-moi, Madame Gaudreau, quels sont les moyens de pression qui ont été mis en œuvre pour le moment et est-ce que vous êtes optimiste?
Ben oui, je suis optimiste. Toujours, il faut.
Oui, oui.
Donc, pour le moment, nous avons parti un groupe sur les réseaux sociaux, sur Facebook.
D'accord.
Qui s'appelle Sauvons notre CHSLD de Waterloo.
Mm-hmm.
Et qui a pour but, initialement, de rejoindre les gens et de les informer sur ce qui se passe. Et par la suite, nous avons démarré une pétition en format papier et en format électronique aussi sur Internet. Donc, c'est sûr que là, on se rend compte avec les pétitions que, mon Dieu, ça suscite de l'intérêt de beaucoup de régions et même de notre ville voisine qui, initialement, a le projet de 96 places à Granby.
Oui.
Donc, même des gens de là savent reconnaître que lorsqu'on est malade et on est en vie, on souhaite résider dans un endroit calme et paisible. Donc, c'est ça. Et là, nous sommes en attente.
Oui.
La pétition se porte bien. On est au-dessus de 2500 signatures en seulement quelques semaines. Et ce n'est que du positif.
Bon, alors on se croise les doigts. Maintenant, il faut encore aller frapper plus haut. Monsieur Russell, vous voudriez rencontrer carrément le ministre Barrette, bien sûr. Est-ce qu'il y a une date?
C'est justement, j'ai eu une accusée de réception de mon invitation à rencontrer M. Barrette.
Oui.
De son cabinet, j'ai passé par l'entremise de mon député de ma région, qui est M. Pierre Paradis, et on m'a confirmé que dès au retour de M. Barrette, parce que c'est les périodes des vacances pour tout le monde,
oui.
On était pour avoir une visite de M. Barrette pour se déplacer et nous rencontrer.
Ah.
Donc, on est très heureux de cette nouvelle-là. Alors, on irait juste à peaufiner la date. Entre-temps, je vais chercher avec par résolution, parce que les municipalités se prononcent par résolution, l'appui de toutes les municipalités qui sont desservis par Waterloo et qui connaissent notre enjeu, et d'autres municipalités qui sont aussi, qui ont des CHSLD, qui sont en banlieue et qui ne veulent pas perdre cette infrastructure sur le territoire.
Bien sûr. Ben écoutez, mais bravo, parce que j'ai l'impression que si vous étiez resté les deux pieds dans le ciment, ça aurait déjà été final. Hein? J'ai l'impression que c'est tout ce que vous engagez en ce moment qui permet peut-être de retarder ce projet-là.
Alors, on sait très bien que les gens du CIUS de l'Estrie ont déposé un projet préliminaire au cabinet du ministre. Le cabinet du ministre, on l'a regardé, on l'a scruté.
Oui.
C'est sûr et certain qu'on va demander une rencontre en privé pour pouvoir discuter de, un, Quelle est cette perception? Comment qu'il voit cette situation-là?
Bon.
Et j'espère qu'il est capable de percevoir dans son non-verbal qu'il va être favorable à notre requête. Notre propriété est à cheval sur deux municipalités.
Oui.
On a amplement de terrain pour pouvoir bonifier. Là, présentement, nous avons 43...
L'autre, c'est Shefford, hein? Est-ce que c'est ça?
C'est ça, c'est la municipalité de Shefford.
C'est ça.
Et on pourrait bonifier le volume à 64, parce que la manière que ça fonctionne, c'est par, chiffre de 32, multiple de 32.
OK.
Alors, si on mobilise à 64, on pourra rendre l'établissement encore plus rentable, parce que ça, c'est une des préoccupations des fonctionnaires. Hein?
Oui.
Il faut que ce soit rentable,
mais oui.
Que la logistique fonctionne bien. Alors, nous, on dit, bien, on est d'accord avec vous, puis on est prêt à se mobiliser pour trouver des manières pour pouvoir construire une extension à la bâtisse existante.
Bon. Alors, écoutez, moi, je suis contente de vous avoir parlé, puis je m'attendais, ben, pas à avoir des gens un peu abattus, mais vous n'êtes vraiment pas des gens qui semblaient vous laisser abattre. Et bravo. J'entends beaucoup de sourires, justement, dans votre voix, beaucoup d'optimisme, beaucoup de résolution aussi. Hein?
Oui.
Alors, écoutez, je ne peux pas croire que M. Barrette va rester insensible, d'une part, à la qualité des services que vous proposez. Oui, quoique, on ne sait jamais, mais en tout cas. Et puis, en plus, il va vous trouver tellement sympathique. Moi, je pense qu'il va craquer, le bonhomme.
Oui, on a pour notre dire, hein, on ne peut pas critiquer les gens qui essaient et qui échouent, mais seulement ceux qui échouent d'essayer.
Oui, comment vous avez dit ça? Redites-moi ça, je m'excuse.
On ne peut pas critiquer les gens qui essaient et qui échouent, mais seulement ceux qui échouent d'essayer.
Exactement, oui, elle est bonne. Monsieur Russell, je rappelle que vous êtes le maire de la municipalité de Waterloo. D'ailleurs, est-ce que vous dites Waterloo, vous, ou Waterloo?
Les deux, mais avec le sourire.
Ah! Et puis Annie Gaudreau, bénévole, qui a aussi un frère au CHSLD qui nous concerne. Stéphane, je crois, hein?
En plein ça, oui.
Alors, vous embrassez Stéphane sur les deux joues de la part de toute l'équipe de Canal M et je vous remercie d'avoir répondu à mes questions. Bonne chance et moi, je me croise les doigts. Je suis sûre que ça va marcher.
Merci de votre intérêt, votre soutien.
De rien, salut. Au revoir. Alors, en rafale maintenant, le Comité paralympique canadien et les œuvres de charité Bon Départ de Canadian Tire invitent les demandes pour le fonds Bon Départ de Parasport 2017. Les organisations communautaires et les organisations sportives sont invitées à présenter des demandes pour le fonds Bon Départ de Parasport 2017 qui donne des programmes de parasport d'initiation et de développement conçus pour rendre les enfants et les jeunes ayant un handicap actif et impliqués dans les sports. Depuis 2013, les œuvres de charité Bon Départ de Canadian Tire et le Comité paralympique canadien ont été engagés dans un partenariat pour créer de plus grandes occasions pour les enfants et les jeunes ayant un handicap entre 4 et 18 ans et qui font face à des barrières financières pour participer activement dans les sports organisés et l'activité physique. Et jusqu'à maintenant, le fonds a distribué plus de 520 000 $. Bon Départ croit que tous les enfants doivent avoir l'occasion de jouer, peu importe la situation financière de leur famille, et le fonds Bon Départ de Parasport aide à étendre notre portée à plus d'enfants, a dit London French, le président et le CD. Le CD, ce serait le CD. J'aurais dû aller chercher ça juste avant de vous le lire, mais que voulez-vous? Elle est faible aussi, ça lui arrive. Mais enfin, bref, ce monsieur qui s'occupe des œuvres de charité Bon Départ de Canadian Tire a dit « Nous sommes fiers d'aider à faciliter plus de programmation pour les enfants ayant un handicap en difficulté financière ». En 2017, le fonds Bon Départ de Parasport soutiendra encore plus de programmes de parasport à travers le pays par un programme de subvention. L'objectif demeure encore d'améliorer l'accès pour la participation de base pour les enfants et les jeunes, mais il s'est élargi pour inclure plus d'occasions pour divers genres de sport et de programmation. Pour obtenir plus de détails et les directives pour les demandes, vous devez visiter Jumpstart, J-U-M-P, Start, S-T-A-R-T, en un seul mot, point canadiantire.ca. Vous connaissez quelqu'un ou vous-même, vous aimeriez optimiser votre vision et vous adapter à l'information visuelle? Eh bien, ils ont des appareils de basse vision technologique et des embosseuses braille sophistiquées adaptées à toutes les situations de la vie quotidienne qui pourraient vous permettre d'avoir la juste information. Si vous êtes intéressé pour les tester, ce sera le mercredi 23 août 2017 à 13h au Centre communautaire Saint-Benoît, 170 Saint-Antoine-Nord, 119 à Granby. Ah, ça en fait des informations. C'était Clotilde Seille à l'émission On aime l'été. Aime l'été. Merci, à demain. Midi.